VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 6 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le commandant de la force du G5 Sahel et son adjoint ont été relevés de leurs fonctions.
Au Bénin, le Parlement a autorisé hier la révision de la Constitution.
4 militaires ougandais et 3 civils ont été tués dans un affrontement entre le Congo et l'Ouganda sur les eaux du lac Édouard.
Djibouti a inauguré hier ce qui doit devenir la plus grande zone franche du continent africain.
Entrée en vigueur depuis minuit des taxes douanières réciproques aux États-Unis et en Chine.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde. Pour l'instant, l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde.
Le commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général malien Didier Dakwo, et son adjoint, le colonel-major burkinabé Séré Yaya, ont été relevés de leurs fonctions par les chefs d'État du G5 Sahel. Selon notre correspondant Kassim Traoré, ces sanctions avaient été suggérées lors de la rencontre à Nouakchott entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel en marge du sommet de l'Union africaine.
Certaines décisions ont été prises lors de la rencontre des chefs d'État du G5 du sommet de l'UA qui s'est tenu la semaine passée à Nouakchott. Le commandant de la force du G5 Sahel, le général malien Didier Dakwo, a été relevé de ses fonctions, ainsi que son adjoint, le colonel-major burkinabé Séré Yaya. Le massacre des civils des troupes maliennes de la force G5 Sahel à Boulkessi est l'une des causes. L'attaque du camp de Sévaré a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Selon le président français, il s'agit de donner un choc psychologique en changeant tout le commandement de la force G5 Sahel. Et c'est le Tchad qui a été désigné pour remplacer le chef d'état-major général du G5 Sahel. Certains officiers à Bamako parlent d'une rotation normale à la tête de la force conjointe, mais les diplomates occidentaux sont très clairs. Il s'agit d'une sanction pour faute grave parce que le bâtiment du G5 Sahel basé à Sévaré n'avait aucun dispositif sécuritaire efficace pour faire face aux attaques. En tout cas, le Mali, selon le président de la Commission de défense nationale Karim Keïta, jouera sa partition pour combattre le terrorisme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Bénin, le Parlement a autorisé hier la révision de la Constitution, mesure portée par le président Patrice Talon après une précédente tentative sans succès en avril 2017. Ce vote ouvre désormais la voie aux propositions concrètes de modification. L'exécutif entend notamment consacrer l'amélioration de la représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale, la suppression de la peine de mort ou encore l'alignement des mandats électifs.
4 militaires ougandais et 3 civils ont été tués dans un affrontement sur les eaux du lac Édouard entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Selon Donata Kibwana, administrateur du territoire de Beni dans le Nord Kivu, un navire ougandais a chaviré provoquant la mort de 4 militaires et 3 civils. Du côté congolais, un militaire et un civil ont été blessés. L'incident a eu lieu à la hauteur du village congolais de Kabiyongé au bord du lac Édouard. Une patrouille navale de la RDC a été attaquée par un convoi de patrouilleurs ougandais sur les eaux congolaises du lac Édouard. Depuis le début du mois, des accrochages entre forces congolaises et ougandaises se sont multipliés. Mercredi dernier, une patrouille ougandaise avait interpellé 18 pêcheurs congolais alors qu'ils installaient leurs filets.
Aux Nations Unies à New York, les diplomates avertissent que les 4 missions les plus importantes de casque bleu vont devoir se serrer la ceinture un peu plus que les autres, et ce, en application du budget Opération de paix 2018-2019, adopté formellement jeudi par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces 4 missions, Soudan du Sud, République démocratique du Congo, Mali et Centrafrique, sont donc toutes en Afrique.
Djibouti a inauguré hier ce qui doit devenir la plus grande zone franche du continent africain. Ce pays entend tirer pleinement profit de sa situation stratégique à l'entrée de la mer Rouge, Morgane Guiriec.
Pendant la cérémonie hier, en compagnie de quelques chefs d'État africains, le président Ismaël Omar Guelé a vanté les mérites d'un projet phare. La première phase de ce projet couvre une zone de 240 hectares. Il doit coûter 3,5 milliards de dollars financés par l'État djiboutien et un prêt de la Chine. La construction est prévue sur 10 ans et devrait dans le long terme s'étendre sur 4 800 hectares pour en faire la plus grande zone franche du continent. Selon le Premier ministre djiboutien Abdulkader Kamil Mohamed, ce projet devrait permettre de faire croître le PIB de 11%. Plus de 21 compagnies ont déjà accepté de s'implanter. Ces sociétés étrangères vont bénéficier d'une exemption de taxes et vont installer des industries de transformation au lieu de simplement importer ou exporter des matières premières. Le gouvernement djiboutien espère que les profits tirés des ports et la nouvelle ligne de chemin de fer vers l'Éthiopie permettront de couvrir la dette vis-à-vis de la Chine et aideront à sortir la population de la pauvreté.
En Zambie, le gouvernement a annoncé hier devant le Parlement son intention de présenter des lois pour réguler Internet et les réseaux sociaux, accusés de favoriser, je cite, « la déliquescence des normes culturelles de la société ». Le point avec Bagassi Koura.
Devant les députés, le ministre de la Communication, Brian Mushimba, a usé de mots très durs contre le web qui, à ses yeux, est utilisé pour diffuser, entre autres, de la pornographie et des discours de haine. Selon lui, les cas d'imposture, d'insultes, d'abus, de fausses accusations et d'escroquerie sur les réseaux sociaux ont atteint un niveau alarmant et que tous ceux qui se livrent à de tels comportements sont sévèrement mis en garde. Il a indiqué que plusieurs lois dites de cybersécurité sont en cours de rédaction, dont il souhaite l'entrée en vigueur dès le début de 2019. Il n'a cependant pas spécifié les mesures qui seront prises. Les élus de l'opposition ont vivement dénoncé le discours du ministre, accusant son gouvernement de vouloir faire taire la contestation et museler la liberté d'expression. Depuis sa réélection en 2016, le président Edgar Lungu est régulièrement accusé par ses adversaires de dérives autoritaires. L'an dernier, il a jeté en prison son principal rival, Hakainde Hichilema.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Depuis minuit, des taxes douanières réciproques sont entrées en vigueur aux États-Unis et en Chine d'une valeur totale de 64 milliards de dollars sur des produits originaires des deux pays. Pour beaucoup, donc, c'est le début d'une guerre commerciale tant redoutée. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Les tarifs douaniers américains de 25% sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises frappent plus de 800 produits, dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs, tout en épargnant des biens populaires comme les téléphones portables ou les téléviseurs. Côté chinois, ce sont des produits agricoles américains comme le soja, le secteur automobile ou encore des produits de la mer comme les langoustes qui seront frappés de taxes douanières d'une valeur égale. Pékin ne cédera pas à la menace ni au chantage, a assuré hier le porte-parole du ministère chinois du commerce Gao Feng. Les deux premières puissances économiques du monde ne devraient pas en rester là, puisque Donald Trump a demandé à son administration d'identifier 200 milliards de dollars de produits chinois en vue de tarifs supplémentaires de 10% applicables avant la fin de l'été.
Les officiels américains cherchent à rassurer le bloc occidental, disant que le président Donald Trump renforcera la détermination des États-Unis à confronter Moscou pendant le prochain sommet de l'OTAN et lors de sa réunion avec son homologue russe Vladimir Poutine. Selon Kay Bailey Hutchinson, la représentante américaine auprès de l'organisation, les leaders de l'OTAN s'entendront pour renforcer leur capacité dissuasive et défensive. Ces assurances font suite à des soucis exprimés quant à l'attachement du président Trump à l'Alliance Atlantique.
États-Unis toujours, M. Trump a accepté la démission de Scott Pruitt, le patron de l'EPA, l'Agence américaine pour la protection de l'environnement. Les scandales et allégations de manquement à l'éthique professionnelle formulés contre ce dernier défraient la chronique depuis des mois déjà. M. Trump s'était refusé jusqu'ici à le limoger en vantant son travail à la tête de l'agence EPA.
Les ministres des Affaires étrangères, allemands, chinois, français, britanniques et russes, au pied du mur, aujourd'hui à Vienne, où ils rencontrent les responsables iraniens qui ont posé leurs conditions pour maintenir l'accord sur le nucléaire iranien.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. La Coupe du Monde maintenant avec Yacouba Ouédraogo.
« Bonjour à tous et bienvenue au Journal du Mondial. Nous sommes au jour de match. Les deux premiers quarts de finale se jouent aujourd'hui. À 14h temps universel, la France fera face à l'Uruguay. L'attaquant uruguayen Edinson Cavani, très incertain, s'est entraîné hier pour la première fois depuis sa blessure contre le Portugal samedi dernier. El Matador a enchaîné les allers-retours en marchant puis trottinant, sans boiter mais sans non plus courir à haute intensité dans un coin du terrain pendant que ses coéquipiers s'entraînaient sur l'autre moitié de la pelouse. L'équation Cavani s'est invitée en conférence de presse d'avant-match et le sélectionneur des Bleus n'a pas échappé à la question. Voici la réponse de Didier Deschamps.
Je prépare mon équipe dans le cas de figure où il y a Cavani. Il y sera, il y sera pas. Je le saurai qu'une heure et demie avant le match. À moins que vous pouvez m'affirmer qu'il y soit ou qu'il y soit pas. Mais s'il est pas là, voilà, il y a d'autres options. Oscar Tabarès a d'autres options, avec Estuani notamment, qui est aussi un très très bon attaquant. 21 buts avec Girona, dont 10 buts de la tête. Il a une option avec Rodriguez aussi, qui est différente, différents profils. Je prépare mon équipe avec ces différentes options en début de match, mais qui peuvent intervenir aussi en cours de match.
Côté supporters, le ton monte petit à petit et quelques fans français présents à l'arrivée hier des Bleus à leur base à Nizhny ont donné de la voix.
J'habite Lyon et on est venus les deux frères et on est venus supporter l'équipe de France. Ils ont fait un très bon match. Très très bon match en quart de finale, meilleur match de ma vie que j'ai vu. Et j'y crois avec l'attaque qu'on a, je pense qu'on va y arriver et on va voir la demi et la finale et on va la gagner cette Coupe du Monde.
Même ambiance côté uruguayen, écoutons les réactions de quelques fans.
C'est l'été Sojo.
Tough team, small country, you know, we have great defense.
C'est un match entre deux équipes. Nous avons une grande défense. Malheureusement, je ne pense pas que Cavani va jouer. Je veux dire, je ne sais pas. Certainement, ça va être une grosse perte pour nous, mais je pense que nous pouvons tout de même relever le défi. L'équipe est mentalement très forte. Les joueurs savent qu'il va leur manquer, mais ils vont jouer à fond, ne serait-ce que pour lui faire plaisir, même s'il n'est pas sur le terrain.
Je pense que l'équipe qui va gagner demain, la France ou l'Uruguay, a une grande chance d'être en finale. Et quel que soit l'adversaire en demi-finale, la Belgique ou le Brésil, le vainqueur du match France-Uruguay va être le champion.
Un peu plus tard à 18h, temps universel, on aura l'autre quart de la soirée entre le Brésil et la Belgique. Après un démarrage poussif, le Brésil est monté en puissance dans la compétition, comme sa star Neymar, beaucoup critiqué. Bien évidemment, il bénéficie du soutien de son sélectionneur Tite.
Vous devez regarder la vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les images. Je serais heureux de le voir jouer à son meilleur niveau et même plus. Même s'il s'agit pas seulement d'avoir le ballon et de faire des dribbles, il y a d'autres actions et si vous observez bien, vous allez voir comment il participe collectivement à la récupération du ballon. Parfois dans les contre-attaques, je ne veux pas nécessairement voir contre-attaquer comme il le fait, mais il privilégie le sens du travail en équipe, ce qui est la meilleure vertu.
Brésil-Belgique, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Les matchs Belgique-Brésil sont aussi rares que des pipis de chat et se soldent généralement par la victoire des Brésiliens. Mais pour le second quart de finale qui se dispute à Kazan, les données ont quelque peu évolué. La stratégie des Brésiliens a changé avec ses avantages et ses inconvénients. Si l'équipe défend nettement mieux et a choisi de jouer la prudence et la patience, par contre, sa créativité légendaire et sa capacité de réaction, surtout quand l'adversaire vient à marquer le premier dans un match à élimination directe, a diminué. Ce qui peut parfois être fatal à la sélection, et cela fut le cas en 2006, en 2010, respectivement contre la France de Zidane et les Pays-Bas d'Ariane Robben, qui trouvèrent la faille assez tardivement. Or, la Belgique, que le quintuple champion du monde va affronter vendredi, se trouve dans la même configuration que les Pays-Bas de 2010 en Afrique du Sud. Tout d'abord, il y a cette constellation de sable tournée vers l'offensive, mais aussi ce statut enviable d'outsider qui n'a rien à perdre et ne subit aucune pression. En face, le Brésil a perdu le ratisseur Casemiro, suspendu, certes remplacé par le solide Fernandinho, mais celui-ci commet souvent des fautes à une distance que les artificiers belges De Bruyne, Mertens ou Hazard peuvent exploiter. Le Brésil qui ne cache pas son objectif de ramener immédiatement le trophée pour montrer que l'effondrement devant l'Allemagne en 2014 n'était qu'un accident trouve là l'occasion de confirmer ses ambitions.
Demain se joueront les deux autres quarts de finale entre l'Angleterre et la Suède à 14h temps universel à Samara et Russie-Croatie à Sotchi à 18h. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal du mondial.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les lycéens tchadiens s'apprêtent à affronter l'épreuve du baccalauréat alors que la grève générale lancée en mai dernier par la plateforme syndicale revendicative reste toujours en vigueur. Les élèves n'ont ainsi pas pu finir les programmes, mais pour pallier cette lacune, un jeune Tchadien vient de lancer une nouvelle application mobile dénommée BackTchad. Notre correspondant à Niamena, André Kotmajingar, l'a rencontré.
La nouvelle application mobile BackTchad vient renforcer les capacités des candidats des séries littéraires dans leur recherche à travers les smartphones. Il suffit de télécharger le logiciel pour avoir accès à la méthodologie de traitement des anciens sujets au bac. Une initiative d'un jeune Tchadien pour aider les élèves des établissements d'enseignement public qui n'ont pas pu finir les programmes pour faire des grèves de la plateforme syndicale revendicative. Le promoteur du projet, Dingamdoum Haristit, parle de l'importance de cette application pour les candidats.
Dès que vous téléchargez l'application, vous avez accès au contenu sans avoir recours à Internet. Et en plus, l'élève a la possibilité de tester son niveau. Quand il aura fini de lire un cours, il y a des quiz qui interagissent avec l'application, c'est-à-dire il y va sur le quiz, il trouve les questions, il répond et l'application lui dit s'il a réussi, s'il n'a pas réussi.
Interrogé par VOA Afrique, quelques candidats trouvent cette application intéressante.
L'application BackTchad remplit plus ou moins nos besoins. Parce qu'on reçoit le programme et avec les grèves, ceux qui n'ont pas réussi à finir le programme, avec ça, ils peuvent mieux aborder quand même le bac.
La partie de français, ça m'a aidé à comprendre mieux les œuvres développées. Mais la partie de philosophie, je n'ai pas trop compris parce que la formulation des sujets était un peu complexe.
Ils ont ajouté l'ONU et ils ont un peu approfondi le chapitre là. Puisqu'ils ont résumé le cours, c'est bon.
Une initiative appréciée par les parents d'élèves qui, selon eux, permettra à leur progéniture des établissements publics de se rattraper. D'autres, en revanche, expriment leur inquiétude sur l'orientation de ce sujet traité. C'est le cas du proviseur du collège évangélique de N'Djamena, Salé Samuel.
Avec tous les troubles que nous avons connus, beaucoup n'ont pas eu l'occasion, n'est-ce pas, de bien préparer les examens. Si quelque part on leur donne la possibilité de se débrouiller à préparer, je trouve que c'est une bonne chose. La seule chose que j'ai déploré, c'est que comment les enfants vont faire la sélection des informations pour qu'ils ne soient pas déroutés pendant l'examen.
Pour cette inquiétude, le promoteur de cette application, Dingamdoum Aristide, rassure les parents en ces termes.
Nous mettons la méthodologie de dissertation. Donc c'est pour permettre aux élèves de comprendre un peu comment faire la dissertation, le commentaire composé ou la contraction de texte. Juste question d'ouvrir un esprit à l'élève.
Le 16 juillet prochain est retenu par l'Office national des examens et concours du supérieur pour la composition du baccalauréat, alors que la plateforme syndicale revendicative n'a pas encore levé son mot d'ordre de grève. Mais certains enseignants font déjà défection et s'inscrivent sur la liste de ceux qui veulent être impliqués dans l'organisation de cet examen. Des comportements qualifiés par les autres de haute trahison qui risquent de fragiliser la lutte. André Kodmadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Djibouti a inauguré hier ce qui doit devenir la plus grande zone franche sur le continent africain. Le président Ismaël Omar Guelleh a vanté les mérites d'un projet phare. Situé sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde, entre l'océan Indien et le canal de Suez, Djibouti a inauguré l'année dernière 3 nouveaux ports et une ligne ferroviaire reliant l'Éthiopie. Idriss Fall a joint le premier ministre djiboutien, Abdelkader Kamil Mohamed.
Ce qui a été inauguré aujourd'hui, c'est Djibouti International Free and Trade Zone. C'est une zone franche pour l'Afrique. C'est la première fois qu'en Afrique, une free zone pareille a été réalisée et tous les chefs d'État présents l'ont répété et l'ont redit. D'abord pour Djibouti, elle va augmenter de 11% le PIB du pays. Deuxième point, c'est que pour l'Afrique tout entière, ça sera donc une zone franche pour tous les produits qui peuvent passer par Djibouti. J'ai dit bien pour toute l'Afrique, mais la plupart des États africains qui sont à l'ouest de l'Afrique Ils auront sûrement leur zone franche, mais la partie est-africaine, tout va passer par cette zone-là. Ensuite, pour l'intégration économique de l'Afrique.
Et ça va rapporter en gros combien? Parce qu'on dit que c'est la plus grande zone franche du continent.
Oui, mais là, c'est la première étape. Ça sera sur 3 étapes jusqu'en 2020-2025. Par rapport au PIB, ça va augmenter de 11%.
Et il a été construit avec quel fonds et avec l'apport de quel pays?
Sur un prêt consenti par la Chine. C'est Djibouti qui finance tout ça sur des prêts chinois.
Et aussi, ce sont les Chinois qui ont construit le chemin de fer qui part de Djibouti à l'Éthiopie, voie de désengorgement aussi.
Absolument. Il y a ceux qui ont construit donc le chemin de fer et ceux qui maintenant ont construit la zone franche. C'est China Merchant.
Donc Djibouti est en train de vouloir profiter vraiment de sa position stratégique.
C'est ça qui est le plus important. C'est vrai que nous n'avons pas, nous, des ressources naturelles. Par contre, Dieu nous a placés géographiquement dans une zone où Djibouti occupe une zone stratégique où à peu près plus de 30% du commerce international par voie maritime passe par cette zone-là, l'océan Indien. Ce qui fait que nous sommes bien situés à ce niveau et nous comptons profiter de cet emplacement pour avoir le maximum de rentabilité pour notre pays et pour notre peuple.
Et donc ce n'est pas par hasard que la Chine vient construire un grand port aussi à Djibouti.
C'est pas un hasard. La Chine quand même a aussi des intérêts. Les intérêts chinois sont djiboutiens aussi. Hein, parce que c'est vrai que la Chine a aussi d'autres zones où ils doivent travailler comme le Pakistan. Vous savez que ce qu'on appelle One Road, One Belt dans l'océan Indien passe par le Pakistan. Et après, ça vient chez nous. Nous comptons donc profiter de notre position pour qu'effectivement, on puisse développer notre pays.
Abdelkader Kamil Mohamed, Premier ministre de Djibouti.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, Dakar, la capitale, est confrontée à une forte pénurie d'eau depuis plusieurs mois, ce qui n'empêche pas les factures d'être toujours plus chères. Les autorités en charge de l'eau sensibilisent les populations et annoncent de gros investissements pour faire face à cette situation. En attendant, Dakar et sa banlieue ont soif, nous dit notre correspondant sur place, Sedina Abagay.
À Rufus, que les femmes se tournent souvent vers les charretiers pour s'approvisionner en eau. Depuis le début de l'année, les populations sont confrontées à une forte pénurie d'eau. Ibrahim Fall passe des nuits blanches pour s'approvisionner.
Cela fait pratiquement 6 mois que nous vivons le calvaire du manque d'eau. Nous restons éveillés toute la nuit avec nos enfants pour attendre l'arrivée des quelques gouttes qui nous permettent d'avoir un peu d'eau durant la journée. Nous sommes vraiment fatigués par cette situation.
Ce manque d'eau met les femmes dans une position inconfortable, comme l'indique Bekay Fall. Ce dernier décrit le calvaire quotidien des dames.
Nos sœurs et nos épouses souffrent énormément de cette situation. Même s'il y a panne, les autorités doivent nous aider en réglant cette situation. Les femmes parcourent de longues distances pour se ravitailler en eau, ce qui est très difficile et déplorable. On reste toute la journée sans eau.
En tout cas, toute la journée, nous avons d'eau.
Du côté des autorités, on explique cette situation par un problème d'investissement, mais aussi par une forte croissance démographique. Ndiaye Diop, directeur de la communication et de la coopération de la Sénégalaise des eaux, apporte des éclaircissements.
Ce déficit de production est là parce que tout simplement, il y a un retard d'investissement. Il y a un moment où l'investissement ne suivait pas la demande. Et l'investissement ne peut pas suivre la demande puisque ce sont des investissements lourds qui demandent un financement très important. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi cette donne démographique qui n'est pas négligeable. Une croissance d'au moins 3,5%.
Au-delà des problèmes en approvisionnement, les populations se plaignent de la cherté des factures. Sakounian est une mère de famille qui juge cette situation incompréhensible. Elle interpelle les autorités.
À chaque fois, facturer, il faut que c'est ma question. Pour facturer.
Il faut que la société des eaux nous explique comment elle fait pour nous servir des factures aussi élevées en période de pénurie. On dépense au moins 4 000 francs CFA pour acheter de l'eau aux charretiers, ce qui est très difficile. Nous sommes vraiment sidérés par cette situation.
Nous sommes vraiment sidérés par cette situation.
Du côté de la Sénégalaise des eaux, on appelle les populations à plus de vigilance pour ne pas s'exposer à une hausse des factures. Ndiaye Diop, directeur de la communication et de la coopération de la Sénégalaise des eaux, sensibilise sur ces cas.
Toutefois, je dois dire que par moment, surtout dans les zones où il y a des difficultés d'approvisionnement, les clients souvent ouvrent le robinet et pensent pouvoir attendre l'eau tranquillement. C'est une erreur de leur part que nous essayons de leur expliquer chaque fois qu'on a l'occasion de les rencontrer. Puisque l'air pour faire fonctionner le mécanisme du compteur. Parce que quand vous ouvrez un robinet, vous sentez un sifflement. Ça veut dire que le compteur a déclenché. Si vous ne fermez pas, malheureusement, vous n'avez pas d'eau, mais le compteur est en train de compter comme si c'était de l'eau.
Pour mettre fin à la pénurie d'eau et soulager les populations, les autorités ont lancé de gros investissements qui, à terme, devraient garantir une offre supérieure à la demande jusqu'en 2035. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
On vous le disait aussi en première partie, depuis minuit entrée en vigueur des tarifs douaniers américains de 25%, frappant 818 produits chinois, soit 34 milliards d'importations de produits. Pékin, de son côté, prend des mesures réciproques pour des produits agricoles américains, notamment le soja. Pour une analyse, Claire Morin-Gibourg a joint le président délégué du Conseil d'analyse économique auprès du ministère français des Affaires étrangères, Philippe Martin.
Ce qu'on essaye de faire, c'est d'estimer quel serait l'impact d'une guerre commerciale très très forte, hein, puisqu'on simule ce qui se passerait avec des tarifs autour de 60% entre les grands pays industrialisés. Je rappelle aujourd'hui, ils sont autour de 2 à 3% entre, par exemple, l'Union européenne et les États-Unis. Donc on essaye de comprendre ce qui se passerait, et ce qu'on voit, c'est évidemment une très forte réduction des flux de commerce, et puis le fait que tous les pays, les grands pays en particulier, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne perdraient entre 3 et 4% de leurs revenus de manière permanente. Donc c'est des effets qui sont pas négligeables du tout, et c'est des effets qui montrent que tout le monde perd évidemment à une guerre commerciale.
Pensez-vous qu'il puisse y avoir un bloc Union européenne, Chine contre les États-Unis?
Alors, pour le moment, en effet, c'est les États-Unis qui ont commencé cette guerre commerciale, dont l'objectif n'est pas totalement évident pour les Européens et pour les Chinois. D'autant plus que entre Européens et Américains, il y avait plutôt une alliance assez naturelle sur des questions qui sont soulevées à la fois en Europe et aux États-Unis sur la Chine. Puisque, par exemple, à l'Organisation mondiale du commerce, à la fois les Européens et les Américains considèrent qu'il y a un problème chinois sur le fait, par exemple, des aides aux entreprises, des entreprises d'État, sur les questions de propriété intellectuelle, sur la question de la non-réciprocité dans le cas de la Chine, puisque la Chine est toujours considérée comme un pays en voie de développement dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Bref, il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels les Américains et les Européens pouvaient s'entendre, mais du fait de l'agressivité du président Trump sur cette question commerciale, cette alliance clairement n'aura pas lieu. Donc la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y aurait une alliance plutôt entre la Chine et l'Union européenne ? Moi, je ne la vois pas tout de suite parce qu'encore une fois, il y a aussi des désaccords assez profonds entre l'Union européenne d'une part et la Chine sur justement ces questions de fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce. En revanche, ce qui se passe maintenant, c'est que de fait, il y a des rétorsions à la fois du côté européen et du côté chinois contre les Américains, donc avec une augmentation des tarifs. Et c'est là où il peut y avoir rétorsion contre rétorsion et où, du coup, il peut y avoir en effet une guerre commerciale avec des tarifs extrêmement élevés.
C'était Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique auprès du ministère français des Affaires étrangères.
Afrique, votre santé, votre avenir.
Un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VE Afrique avec Rosine Mézéro
et Mohamedou Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.